OK. Je pense qu'on va attaquer. Je m'entends pas, mais je pense que vous m'entendez. Ouais? Alors c'est bon. Non, derrière, on m'entend pas trop. OK. Il y aura encore un peu de bruit le temps que tout le monde s'installe, mais vu que c'est l'intro, c'est pas très important. Donc tout va bien. Depuis quelques années, avec mes collègues au foyer évangélique universitaire à Lille, on a pris l'habitude d'étudier un sujet par an. On étudie un sujet à fond, dans l'espoir d'avoir une vision commune et puis dans l'espoir d'avoir des applications pratiques cohérentes qu'on veut vivre ensemble avec les jeunes. Et cette année, on a décidé de travailler le sujet de la prière. Alors, on se posait des questions par rapport à ça. Et puis, on a aussi posé quelques questions aux étudiants qui sont bénévoles, qui sont donc engagés pour l'association, des vrais serviteurs. On leur a demandé, si vous deviez mettre une note à votre vie de prière, de 0 à 10, 0, je ne prie jamais, j'ai aucune communion avec Dieu, 10, je suis en communion permanente avec mon Père, c'est merveilleux, quelle note vous donneriez-vous ? Face au nombre de 0, de 1 et de 2, une étudiante bien intentionnée a dit « En fait, il faudrait vraiment qu'on fasse un enseignement sur la prière. C'est vrai, c'est une bonne réponse. J'ai répondu « En fait, est-ce que parmi vous qui êtes là, tous ceux qui ont déjà eu un super enseignement sur la prière, mais vraiment, hein, un week-end, vraiment, on n'a parlé que de ça, est-ce que vous pouvez lever la main ?» Tout le monde a levé la main. Ici, il n'y en a eu qu'un. Mais là, dans le groupe de responsables... Dans le groupe de responsables, là, tout le monde a levé la main. Et je me suis dit, ben zut alors. Comment ça se fait qu'ils ont tous eu un super enseignement sur la prière et qu'il n'y en a aucun qui est satisfait de sa vie de prière? Qu'est-ce qu'on communique, en fait? Qu'est-ce qu'on transmet aux jeunes? Comment ça se fait qu'on fait tant d'efforts pour essayer de transmettre la passion du Christ, une vie centrée sur lui, et que quand on regarde les fruits, on est déçu? En fait, par quoi est-ce qu'ils sont motivés? Est-ce qu'ils sont motivés par l'être? Est-ce qu'ils sont motivés par ce qu'on va faire ensemble? Est-ce qu'ils ont juste envie de... Ah, parce que des activités, on en fait, hein. Est-ce qu'ils ont envie d'abattre du travail et c'est super stimulant? Est-ce que j'ai des questions à me poser sur ma propre vie? Est-ce que je ne sais pas prier? Est-ce que c'est ça qui fait que je duplique mes lacunes? Comment ça se fait? C'est un petit peu le sujet de notre atelier. Les jeunes, motivés par l'évangile ou l'activité. Et j'espère qu'on va aborder le sujet avec les quatre points qu'on va voir ensemble. Les deux premiers, c'est Sam Boukoras qui se présentera tout à l'heure, qui va les voir avec vous. Et puis moi, je traiterai les deux suivants. Les deux premiers étant, que mettons-nous en place pour communiquer une ambition spirituelle forte? Et quelle réussite prenons-nous? Et les deux derniers, quels engagements chrétiens encourageons-nous? Et quels enseignements défendons-nous? Avant cela, je vais me présenter courtement. J'imagine que ça marche comme ça. Ouais, voilà. Pascal, Herman, marié, nous sommes les heureux parents de quatre enfants, merci Seigneur. Et je travaille, comme je l'ai déjà dit, pour le foyer évangélique universitaire depuis une dizaine d'années maintenant. Et aussi responsable dans une petite église locale, ayant particulièrement à cœur le témoignage dans le quartier où nous vivons avec plusieurs couples de chrétiens. Voilà, c'est un petit peu ma vie. Ce qui m'anime, ce que j'ai au fond des tripes, c'est un cœur qui brûle pour les perdus, et puis le désir d'accompagner des jeunes qui viennent de se tourner vers le Christ dans leur marche avec Dieu. Je laisse la parole à Sam pour se présenter et puis traiter les deux premiers points.
Je suis un peu plus petit que Pascal. Bonjour à tous, c'est une joie d'être parmi vous. Une joie, puis aussi un défi, mais une joie, vraiment. Samuel Boukoras, je suis marié à Sarah. On a 3 étoiles, Nathan, Élise et Théo. On habite Angers, dans l'ouest de la France. Je suis infirmier à l'Éducation nationale. Et on travaille ensemble avec Sarah pour l'association de jeunesse des CAEF. Donc on a un ministère jeunesse avec cette famille d'église. Voilà, un petit peu pour notre présentation. Si vous êtes venus dans cet atelier... C'est peut-être parce que vous aussi, vous avez des responsabilités auprès des jeunes, ou peut-être parce que vous êtes jeune, ou peut-être parce que vous vous sentez jeune. ça peut être les trois en même temps, ça c'est possible. Hein. Ça c'est possible. Sûrement vous avez un groupe de jeunes dans votre église locale, très probablement. Et je voudrais qu'on commence avec cette première question. Pourquoi y a-t-il un groupe de jeunes dans votre église locale. Est-ce que vous pourriez dire en un mot pourquoi y a-t-il un groupe de jeunes dans votre église locale ? Réfléchissez, juste un mot. Si plusieurs peuvent donner une réponse, en un mot, ça peut être des mots différents. Allez-y. Les jeunes. Les jeunes, ça fait deux mots ça. Ensuite,
avenir.
Émulation. Discipula. Feu. Ok, on continue.
Formation.
Exemple.
Adapté.
Amen. Ensuite,
créativité.
Relation, il manque un truc. Hein. Allez. Transmission. Votre groupe de jeunes existe pour au moins trois choses. Votre groupe de jeunes existe parce que il vise une finalité, la grande finalité de célébrer la gloire de Dieu. Éphésiens 1, versets 1 à 12, par exemple, nous dit que nous sommes prédestinés pour célébrer la gloire de Dieu, célébrer la grâce, la gloire de sa grâce. Romains 11, 36, par exemple. Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui seul soit la gloire dans tous les siècles. La gloire de Dieu, c'est la grande finalité de toute chose, et donc du groupe de jeunes. Votre groupe de jeunes existe aussi parce qu'il vise un objectif, c'est de former des disciples pour répondre au mandat missionnaire donné par Jésus. Et votre groupe de jeunes existe aussi parce que l'église locale reconnaît la nécessité de tenir compte de la spécificité des jeunes. Ça veut dire que votre église locale utilise une pédagogie, pédagogie du groupe, pédagogie du groupe d'âge, pédagogie du groupe de jeunes, pour atteindre un objectif, former des disciples, pour atteindre une finalité, glorifier Dieu. Nos églises utilisent souvent la pédagogie du groupe. Dans nos églises, il y a plein de groupes différents. Il y a le groupe de jeunes et quoi encore ? Donnez des exemples. Groupe quoi ? Groupe, levez la main. Ouais. Groupe de maison. Ensuite. Groupe troisième âge, groupe des aînés, oui, quoi encore ? Groupe de croissance. Groupe d'hommes, groupe de dames, groupe enfants, par exemple. Communément appelé ECODIM, école du dimanche. Bon, exactement. Il y a plein de groupes différents qui sont utilisés et développés dans l'église. Par exemple, il y a des groupes qui sont constitués selon certains critères. Par exemple, l'âge. C'est le cas de l'école du dimanche, c'est le cas du groupe de jeunes, c'est le cas du club des aînés. Mais parfois le critère c'est pas l'âge, parfois c'est plutôt le profil. Groupe de dames, groupe d'étudiants, groupe de familles, ça existe dans certaines églises, des familles qui se rassemblent pour prier ou pour faire des activités ensemble. Parfois le groupe est constitué autour de la maturité spirituelle. Groupe découverte, on tient compte du fait que les gens connaissent rien la foi, rien la parole. Alors, on constitue un groupe pour leur présenter le métarécit, par exemple. Autre exemple de groupe, c'est des groupes qui se constituent autour d'étapes de vie chrétienne ou de vie tout court. Le mariage, le baptême, ça peut se faire en groupe. On constitue des groupes pour quoi ? Pour pouvoir enseigner de façon adaptée aux besoins spécifiques de ces gens qui sont dans ces groupes. Et le groupe de jeunes, c'est un groupe homogène qui vise un enseignement adapté aux jeunes, à leurs besoins, à leur âge. Pourtant, nos groupes de jeunes, même s'ils sont homogènes quant à l'âge, ils restent très hétérogènes, malgré tout. Qui pourrait décrire, maintenant, très rapidement, le profil du public de son groupe de jeunes ? Décrivez un peu vos jeunes qui sont dans votre groupe de jeunes. Une personne qui lève la main et qui attaque, c'est parti. Alors, il y a des enfants de chrétiens. Il y a qui encore dans votre groupe de jeunes, dans l'église ? Surtout des enfants de chrétiens ? Il y a que ça ? Est-ce que dans tous ces enfants de chrétiens, il n'y a que des disciples engagés, convertis, baptisés ? Non. Donc, ils sont enfants de chrétiens. Différemment.
Il y en a qui sont vraiment convertis, il y a d'autres qui sont en marche.
D'autres qui sont en marche. Il y en a qui sont baptisés peut-être, d'autres qui ne le sont pas. Oui, quelqu'un lève la main.
Il y a des disciples de Christ qui amènent des amis dans le chrétien.
Oui, des disciples. Donc ça veut dire qu'il y a des disciples dans ton groupe de jeunes. Yes.
Et des amis dans le chrétien.
Des amis de ces disciples. Bon. Notre groupe de jeunes, même s'il est homogène quant à l'âge, il reste très hétérogène quant à la maturité spirituelle. Dans un même groupe de jeunes, on va trouver des chrétiens, des disciples engagés, on va trouver des non-chrétiens qui connaissent rien à la foi, on va trouver des gens qu'on ne sait pas caser, ils sont christianisés, ils ont une culture chrétienne, et voilà, on ne va pas voir des fruits d'un disciple qui est engagé, on va aussi trouver des disciples par contre qui sont engagés, qui sont leaders et qui aspirent même aux responsabilités. Et ça, c'est un défi. Comment est-ce qu'on fait pour enseigner ces gens qui sont si différents ? À l'éducation nationale, la première difficulté qui est mise en avant par les professeurs, c'est quoi ? C'est l'hétérogénéité du groupe classe. Comment est-ce que je fais pour enseigner un groupe d'élèves si différents, aux motivations si différentes et au niveau scolaire aussi si différent ? Ça, c'est vraiment un défi. On sait que dans nos groupes de jeunes, il y a des jeunes qui vont venir parce qu'on fait du bowling, parce qu'on va au laser game. Ils viennent quand on fait des sorties. Et par contre, si on leur propose, semaine prochaine, réunion de prière, on va prier pour l'église persécutée, c'est important. On ne va pas chercher des bancs, là. Hein. Pas besoin. Là, ils ne viennent pas. Études bibliques, ça les saoule, ils ne participent pas, ils ne viennent pas. Et dans le même groupe de jeunes, on peut avoir des jeunes qui en veulent, qui sont disciples, qui sont engagés et qui veulent des études bibliques approfondies pour avancer avec le Seigneur. Comment je donne à manger à tout ce monde-là, en même temps ? Il y a un responsable de groupe de jeunes qui m'a dit il y a 3 semaines au téléphone, il y a 2 filles qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Mathias, on voudrait avancer avec le Seigneur, on aimerait des études bibliques plus approfondies pour pouvoir progresser. » Mais ils ne sont pas tous comme ça dans le groupe de jeunes. Comment est-ce qu'on fait quand on a autant d'hétérogénéité et de différences ? D'autant que parfois on peut craindre qu'en élevant le niveau spirituel, on se comprend, je caricature un peu, en augmentant l'ambition spirituelle du groupe, ben, on largue ceux qui ne connaissent rien à la foi ou on largue ceux qui ne sont pas engagés. Ils décrochent. Et en même temps, on sait aussi que si on n'est pas ambitieux spirituellement, on n'est pas en train de nourrir ceux qui ont soif et qui veulent avancer. Comment est-ce qu'on fait ? C'est un vrai défi. Comment fait-on, c'est ça notre question, pour nourrir spirituellement des gens si différents ? Avant de répondre à cette question, il nous faut répondre à une autre question. C'est celle-là. Quelle est notre ambition spirituelle ? Parce que si on n'a pas d'ambition, on n'a pas de problème en fait. Quelle est notre ambition spirituelle ? Un jeune ami chrétien me disait un jour... Quand je vois Paul, Audric, Such, 3 jeunes chrétiens hyper engagés, qui sont à fond de cale pour le Seigneur et pour l'Évangile, ça me fait réfléchir. Est-ce que moi aussi, je dois être comme ça, à fond de cale ? Je ne sais pas ce que vous auriez dit, mais Jésus, il a une réponse. Il dit quelque chose. Jésus dit ça en Jean 15. « Je vous ai choisi afin que vous portiez du fruit. Et en ceci, mon Père est glorifié. » Que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez alors mes disciples. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, qu'est-ce qu'il fait ? Il les taille, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Le disciple, il est appelé à porter du fruit, et même à porter de plus en plus de fruits. Mais le seul moyen pour cela, et c'est Jésus qui nous le dit, c'est d'être connecté avec Jésus, pour que ce soit lui qui produise en nous le fruit de sa vie en nous. Jésus il dit, toujours en Jean 15, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et c'est pour ça que Paul dira en Galates 2.20, vous connaissez très bien ce passage, « Je suis crucifié avec Christ. » C'est plus moi qui vis, hein. C'est Christ qui vit en moi. Est-ce que je dois, moi aussi, être à fond de cale ? Jésus, il a une réponse. La seule façon d'être un disciple de Christ, c'est d'être un disciple mort avec Christ et ressuscité avec Christ. Un disciple dont Christ est la vie, un disciple dont Christ est le Seigneur, le Maître, le Tout, qui vit en lui et qui porte par sa vie en lui, le fruit de la vie et de la résurrection. Un disciple centré sur Christ. Jésus, il est ambitieux il nous appelle à un engagement total dans une connexion vitale avec lui pour une production royale. Engagement total dans une connexion vitale pour une production royale. Il est ambitieux, Jésus. Soyons ambitieux pour nos vies, pour nos jeunes, pour nos églises. Soyons ambitieux. Tout en réaffirmant cela, il nous faut reconnaître, avec Engel, la réalité des stades de maturation, du processus de maturation dans la vie chrétienne. Vous vous souvenez de l'exemple de Tim Keller hier, du médecin, premier à avoir réussi la séparation des Siamois? Il a cheminé, progressé dans sa relation avec le Seigneur. Ici, dans ce schéma utilisé par, enfin, le schéma de Engel, qui est utilisé en missiologie et en évangélisation, dans ce schéma, il décrit les processus qui précèdent et qui succèdent à la conversion. L'idée, c'est qu'on chemine avec le Seigneur. Spirituellement, on progresse et on chemine. Alors, comment faire? Eh bien, maintenons une ambition spirituelle forte, tout en ayant pour nos jeunes une attitude d'amour, de patience et de grâce, sans élitisme envers eux. Maintenons une ambition spirituelle forte, tout en concevant un programme de groupe de jeunes qui favorise l'accueil de tous. Et pourtant, et quand bien même on ferait cela, il nous reste toujours une question. Comment transmettre une ambition spirituelle forte à des jeunes qui sont différents? Eh bien, la pédagogie différenciée permet en partie de faire cela. C'est Robert Burns qui nous dit « Il n'y a pas deux apprenants qui progressent à la même vitesse. Pas deux apprenants qui soient prêts à apprendre en même temps. Pas deux apprenants qui utilisent les mêmes techniques d'études, qui résolvent les problèmes de la même manière, qui possèdent le même profil d'intérêt et qui soient motivés pour atteindre les mêmes buts. » Ça veut dire qu'il y a de la diversité au niveau du public avec lequel on travaille, des apprenants. Il y a de la diversité. Et face à cette diversité, les pédagogues recommandent la pédagogie différenciée. C'est quoi la pédagogie différenciée? Eh bien, c'est passer d'un enseignement identique pour tous à la mise en place d'une équité qui engage nécessairement une diversité des itinéraires, des procédures d'enseignement et donc des contenus d'enseignement. La pédagogie différenciée, c'est travailler avec plusieurs méthodes, plusieurs approches pour pouvoir toucher des publics, des profils différents. Et c'est notamment, pas exclusivement, mais notamment constituer des groupes d'apprentissage pour enseigner, surtout si on pense à l'enseignement de manière académique, de manière adaptée à ce groupe de besoins. Méthodes différentes et groupes d'apprentissage. Deux éléments importants de la pédagogie différenciée. Vous savez quoi? Jésus travaillait en pédagogie différenciée. Parce qu'il enseignait de manière différente lorsqu'il était dans une synagogue, lorsqu'il était au centre-ville de Jérusalem avec la foule, lorsqu'il était sur la montagne, lorsqu'il était à un repas avec ses disciples. Et Jésus a constitué des groupes différents. Parfois ils se sont constitués tout seuls, mais parfois Jésus a constitué délibérément des groupes différents avec lesquels il avait des rapports et un enseignement différent. Exemple, Luc 9. On voit la foule. C'est la foule qui suit Jésus, constamment. Jésus y part et la foule arrive, toujours. Il va à l'écart, la foule le suit. Une foule dont il a compassion, une foule qu'il aime, une foule qu'il enseigne, une foule qu'il guérit également, et ici, une foule qu'il nourrit. Multiplication des pains. La foule, premier groupe. Deuxième groupe, c'est la masse de disciples. Il y a aussi une foule de disciples qui entourent Jésus et qui le suivent. Mais c'est des disciples qui suivent un peu de loin. Ils sont fragiles, ils ont une foi fébrile, une foule de disciples dont beaucoup va partir. Jean 6 nous dit que beaucoup de disciples quitteront Jésus. En Luc 6 également, Jésus, nous dit le texte en Luc 6, rassemble sa foule de disciples et il choisit parmi eux, nous dit le texte, 12 disciples qu'il va appeler apôtres. Et groupe de disciples, groupe d'apôtres qu'on connaît bien, avec qui il va vivre pendant 3 ans. Troisième groupe. Quatrième groupe, c'est les 3. Après la multiplication des pains, Luc 9, Jésus, il en choisit trois parmi les 12, Pierre, Jacques, Jean. Pourquoi ? Pour leur faire vivre la transfiguration, une expérience fantastique. Et il en choisit trois. Autre groupe, c'est les 70. Un chapitre plus loin, Luc 10, Jésus choisit 70 disciples parmi la foule qu'il va envoyer en mission. Et le dernier groupe, c'est le groupe de 1. Je vous propose Pierre, qui a une place particulière et une relation particulière avec Jésus. Pierre, le seul qui va marcher sur l'eau. Pierre, le seul qui veut militairement, physiquement défendre son maître. Pierre, c'est pas le seul, mais celui qui va professer, confesser que Jésus est Christ, Messie. Pierre, le seul dont le reniement et le rétablissement nous sont rapportés. Pierre, le seul à qui Jésus va dire « Sur toi, je vais bâtir mon église. » Pierre. Jésus, il a donc 6 groupes relationnels qui l'entourent. La foule, la masse de disciples, les 12, les 3, les 70 et Pierre, par exemple. Et Jésus, il a des relations différentes. Il va vivre des choses différentes avec eux. Certains vont vivre des expériences que les autres ne vont pas vivre. Par exemple, les 3, Pierre, Jacques, Jean, vont vivre la transfiguration, alors que les 12, les 9, ne vont pas le vivre. Les 12 également, durant 3 ans, vont vivre des choses avec Jésus, profiter de son enseignement au quotidien, l'explication des paraboles, que les 70 ne vont pas vivre. Jésus travaillait en pédagogie différenciée. Et si on imitait Jésus dans sa pédagogie différenciée ? Quelques exemples pratiques maintenant vécus de pédagogie différenciée dans le cadre du travail jeunesse. C'est des choses qui se font actuellement. Premier exemple, c'est la formation biblique. Imaginez un groupe de jeunes de 15-30 ans, ça se passe dans le Nord, à Arras. Le pasteur a proposé pour les 18-25 ans une formation biblique. C'était le vendredi soir, pendant 2 heures, une fois par mois. L'objectif, c'était de rassembler des jeunes qui en veulent, qui ont assoiffé, qui veulent être formés et qui veulent avancer. C'est le pasteur qui va voir des jeunes et qui leur propose « Est-ce que tu participerais pas à la formation biblique ?» En gros, c'est sur invitation. Autre exemple, c'est des moments spi bonus. J'appelle ça comme ça. Imaginez un week-end de jeunes, entre 60 et 100 jeunes, week-end intergroupe de jeunes, et un des organisateurs propose, c'est Philippe Capitaniouk, dans le Nord, avec FPC, et il propose aux jeunes qui veulent de se réunir avant le petit-déj, le matin, tôt, sous le chêne, là-bas, pour un moment spi, ensemble. C'est ouvert à tous, il fait l'annonce à tout le monde, vient qui veut. Et j'ai posé la question à Philippe, c'est quoi l'intérêt de faire ces groupes ? Pourquoi tu faisais ça ? Et Philippe de répondre, l'objectif c'est d'avoir des jeunes qu'on sait, ou qui se savent en tout cas, engagés avec le Seigneur. Et tout de suite, on peut aller plus loin dans l'enseignement, tout de suite, on peut aller plus loin dans la mobilisation. Autre exemple, c'est à Paris, région parisienne, Palaiseau. Le groupe de jeunes de Palaiseau propose un moment spi bonus à tous ceux qui veulent. Il y a une rencontre 1 heure avant l'heure officielle du groupe de jeunes. On peut venir pour avoir un temps spi. Qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, mémorisation de la Bible, étude biblique en mode OIA, temps de prière, bon, peu importe. Mais l'idée, c'est qu'ils vont vivre quelque chose un peu d'intense 1 heure avant le groupe de jeunes. Logistiquement, ça se fait, ça. C'est à Palaiseau.
Excusez-moi, je trahis ma vieillesse.
Bonne question. Merci de poser la question maintenant. Un moment spirituel, exemple, étude biblique, exemple, qu'est-ce qu'on a dit ? Réunion de prière. Voilà, moment... Ouais, pardon, désolé. Merci de poser la question, c'est bien. Voilà, un exemple possible, ça peut se faire également dans un camp, des temps de ce type-là. Autre exemple, autre approche, là c'est de l'enseignement par groupe. À Nantes, dans l'ouest de la France, il y a un groupe scout, une 60aine de jeunes, beaucoup de non-chrétiens, groupe très hétérogène. Comment est-ce qu'on enseigne un groupe comme ça ? Eh bien, ce groupe scout propose 3 groupes d'études bibliques pour les moments spi. Et il propose un groupe plutôt découverte de la foi, un groupe exploration et un groupe approfondissement. Et ils connaissent bien leurs jeunes, très bien leurs jeunes. Alors, c'est les encadrants qui disent aux jeunes, toi, tu vas aller sur tel groupe, toi, tu vas aller sur tel groupe. Ça peut changer, ça peut bouger. L'objectif, c'est quoi ? Il y a des jeunes qui connaissent rien à la foi. On ne va pas leur apprendre à témoigner. Il y a des jeunes, ils connaissent plein de choses, des enfants de chrétiens. Mais ils ne sont pas décidés. On va travailler ça. Et il y a des jeunes, par contre, ils se sont engagés avec Christ et on va être sur d'autres créneaux. Et c'est l'objectif d'avoir un enseignement, une pédagogie différenciée, un enseignement ciblé selon les besoins de chacun. Je vous ai mis plusieurs autres exemples que vous retrouverez sur Internet à télécharger dans les documents en ligne sur le site de l'IBG. J'avance un petit peu. Autre exemple, quand même, sur l'enseignement par groupe, ça se passe aux Pays-Bas, c'est le réseau navigateur. Les navigateurs, c'est un peu comme les GBU. Il y a les navigateurs classiques et il y a les réseaux navigateurs. Le réseau navigateur, ils ont une ambition spirituelle forte, marquée, délibérée. On veut multiplier les disciples, faire de l'édification de l'enseignement. Alors, dans leurs rencontres, ils font pas de fun. Ils font vraiment de l'édification. Somme toute, c'est classique. Repas ensemble, séance plénière avec temps de louange, exposé biblique. Et après, petit groupe pendant une heure de petit groupe. Ils se réunissent par 4-5 avec un leader qui est formé à l'animation du groupe. L'objectif, c'est d'avoir, durant l'année, du suivi dans ce petit groupe, une forme de redevabilité pour se stimuler. Les jeunes s'engagent, s'inscrivent même à l'année dans ce réseau navigateur. Ce qui est intéressant, il y a le groupe navigateur classique, mais il y a aussi, je viens d'expliquer, le groupe réseau navigateur avec une ambition marquée. Mais dans ce groupe réseau navigateur, il y a également la capacité d'accueillir n'importe qui. On y est allé avec Sarah aux Pays-Bas au mois de mars dernier et nous, on a été accueillis dans un groupe dit groupe ouvert. Ces groupes ouverts, ce n'est pas des groupes de 4-5, c'est un groupe de 10, 12 personnes, en tout cas plus grands, et avec des gens qui ne sont pas des réguliers, ça peut changer. Et l'objectif, c'est de pouvoir s'adapter du coup au public. Et les gens de ce groupe-là, ou des deux groupes en l'occurrence, peuvent être non-chrétiens, peuvent être pas du tout engagés, peuvent être des gens de passage, des gens invités. Donc ils ont pensé la chose pour avoir un objectif spirituel fort, mais en même temps, rester capable d'accueillir tout le monde. Autre exemple, toujours aux Pays-Bas, un groupe de jeunes classiques propose à ces jeunes de s'inscrire pour les études bibliques, leur moment spi lors du groupe de jeunes, à des études plutôt en mode découverte ou plutôt d'approfondissement. Et là, c'est le jeune qui choisit. Ce trimestre, cette année, allez, je vais en mode découverte ou je vais en mode approfondissement. Voilà, je cite un dernier aspect qui me semble très important, qui fait partie pour moi vraiment de la pédagogie différenciée, c'est le discipulat et le mentorat. Dans le cadre du discipulat et du mentorat, on tient compte du public qui est en face de nous, de la personne qui est en face de nous. Ça peut être du un à un, mais pas forcément, ça peut se faire en groupe. Je ne vais pas développer le discipulat, mais juste pour le citer, il me semble que c'est dans le suivi des jeunes, dans la formation, dans l'enseignement, ultra fondamental de les accompagner sous ces formes-là. Et on est en plein cœur de la pédagogie différenciée. On tient compte du bonhomme qu'on a en face de nous. Il lutte avec la porno, on va travailler ça. Il ne sait pas témoigner, on va travailler ça. Elle a une mauvaise estime d'elle-même, on va travailler ça. On est dans de la pédagogie différenciée. Je vous ai mis quelques vidéos sur le document dont j'ai parlé, qui sera disponible en ligne, dont la vidéo de Carson sur le discipulat que j'appelle incartentionnel, incarnationnel, intentionnel. La vidéo de Carson s'appelle « Watch me ». Je vous la recommande. Deux écueils lorsque l'on parle de pédagogie différenciée, surtout si on fait des groupes, même si la pédagogie différenciée ne se limite pas à ça, deux écueils, c'est le risque de cloisonnement. Si on fait des groupes, risque de cloisonnement hermétique du corps de Christ. Il faut qu'on garde des temps en commun. Deuxième risque, c'est l'orgueil spirituel. Je suis au-dessus, t'es en dessous. Ça, c'est de l'orgueil spirituel. C'est un risque. Gardons, cultivons par la grâce de Dieu de l'humilité, un regard plein de grâce, plein d'amour pour nos jeunes. Je termine ce point avec deux citations. Peut-être on va lire que la deuxième. Il n'y a de bonne pédagogie que dans l'éclectisme méthodique, la différence, la variation, éclectisme. Il n'y a de bonne pédagogie que dans l'éclectisme méthodique, c'est Mérieux qui dit cela. Les jeunes, motivés par l'évangile ou l'activité. Parlons maintenant d'un autre type d'activité. Et pour cela, je vous invite à lire 3 Jean, chapitre 1 à 4. 3 Jean, versets 1 à 4. Ceux qui rigolent pas, ils devraient avoir honte. 3 Jean, versets 1 à 4. Et on va tenter de répondre à une deuxième question. Quelle réussite prenons-nous auprès des jeunes ? Ce sera plus court. 3 Jean, versets 1 à 4. De la part de l'ancien au bien-aimé Gaius, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé. Je souhaite que tu prospères à tout point de vue et que tu sois en bonne santé, à l'image de ton âme. J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Fin de la lecture. Notre question, c'est celle-là. Quelle réussite prenons-nous auprès des jeunes ? Jean écrit à Gaius. Et il l'appelle son enfant dans la foi. C'est comme si un responsable de groupe de jeunes, peut-être vous, vous écriviez à votre jeune du groupe de jeunes et vous lui disiez « mon bien-aimé, mon enfant dans la foi ». Et Jean, il commence sa lettre, comment ? En rappelant son amour pour lui. Il lui dit « de la part de Gaius, au bien-aimé Gaius, que j'aime dans la vérité ». Vous dites ça à vos jeunes ? Je t'aime. Je t'aime parce que je t'aime. Là, il va te regarder bizarre. Et tu vas lui dire, va voir un site, ça s'appelle Évangile 21, il y a des liens, c'est bon. Dites-le à vos jeunes, dites-le leur. Et Jean continue en disant, et il précise que il aime son jeune dans la vérité, dans l'Évangile de Christ. Ce qui motive l'amour de Jean pour Gaius, c'est quoi ? C'est l'Évangile de Christ. L'amour de Jean, le souhait de Jean, si Jean aime Gaius selon l'évangile de Christ, alors son intérêt pour lui se concentre sur sa vie spirituelle. C'est parce que Jean aime selon l'évangile de Christ que son intérêt pour Gaius se centre sur sa vie spirituelle. Jean souhaite que Gaius soit quoi ? En bonne santé et qu'il prospère à tous égards. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue. Et que tu sois en bonne santé. Il y a une place pour souhaiter ce genre de choses. Mais il fait de la référence, enfin, il fait de la santé spirituelle la référence. Je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tout point de vue, à l'image de ton âme. Jean fait de la vie spirituelle, de la santé spirituelle, la référence, le point central. Pour Jean, son souhait numéro un pour son jeune, c'est quoi ? C'est sa réussite spirituelle. C'est ça. C'est son souhait numéro un. Mahani dit dans son livre « Une vie centrée sur la croix » « J'espère apprendre à mon fils beaucoup de choses. Mais l'évangile, c'est la seule qu'il doit absolument connaître. » Quand on pense à nos jeunes, quand on les regarde, c'est quoi notre espoir pour eux, notre espoir suprême ? Quel est notre souhait suprême ? Qu'ils aient un bon bulletin ? Si on est parents, c'est quoi notre souhait suprême pour nos enfants, pour nos jeunes ? Qu'ils aient une bonne situation ? Un bon métier ? Trop souvent, on est mal centré. Et trop souvent, nos priorités ne sont spirituellement pas les meilleures. Alors, il ne faut pas cultiver une médiocrité évangélique. Il ne faut pas renoncer à une ambition sociale ou professionnelle. Mais il faut tout vivre dans la perspective du royaume. Jean exprime là sa priorité. Je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tout point de vue, à l'image de ton âme. Sa priorité, son souhait numéro un, il est spirituel. Faisons de cette priorité spirituelle la nôtre. Éric, un jeune français de 24 ans, a renoncé à la diplomatie pour devenir prof d'histoire géo et pouvoir s'engager dans son église locale et partir avec portes ouvertes dans des missions, des micro-missions, dans des pays à risque. Son objectif, sa priorité, le royaume. À l'inverse, Michael, un jeune Hollandais de 25 ans qu'on a rencontré là aux Pays-Bas au mois de mars, Lui, il est chef d'entreprise et il dit « Mon objectif, c'est de multiplier mes entreprises parce que je veux prendre un maximum d'argent du monde et l'investir dans le royaume. » C'est bien ça. Son objectif, sa priorité, c'est le royaume avec une ambition sociale forte. Alors la question, au final, c'est pas quelle étude je vais faire. La question, au final, c'est pas quelle activité professionnelle je vais faire. Mais la question prioritaire, c'est quelle priorité je me fixe. Les jeunes motivés par l'évangile ou l'activité professionnelle? Motivons-les pour l'évangile, motivons-les pour le royaume et qu'ils vivent tout dans la perspective du royaume et peu importe au final qu'ils visent une ambition sociale ou professionnelle haute ou basse, mais que ce soit dans la perspective du royaume. Ça, c'est prioritaire. La joie de Jean. Mais avant, allez, une citation de Théo. En bas à droite, Théo, 5 ans, il dit « Un jour, je roulerai en BMW ». Ouais, bah tu te la paieras tout seul, mon gars. Et papa de répondre « Ok Théo, vas-y fonce mon gars, mais achète-en deux. Une pour toi, une pour Jésus. Tu veux une ambition sociale forte? Vas-y mon gars, fais-le pour Jésus. » La joie de Jean. Jean exprime sa joie. Et sa joie est liée à la marche fidèle de Gaius. Il le dit, versets 3 et 4. « J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité. » Ce qui réjouit Jean, alors premièrement, c'est l'évangile. Mais ce qui réjouit Jean concernant ces jeunes du groupe de jeunes, c'est quoi? C'est leur fidélité à l'évangile. Ils sont bien centrés. Ça, c'est bon. Et ça le réjouit. Et ça lui procure même une très grande joie. Quelle est notre joie à nous, lorsqu'on regarde nos jeunes qui se marient bien, qui se sont bien mariés, qu'ils attendent leur deuxième? Des joies et des sujets de reconnaissance légitimes, il ne faut pas les minimiser. Soyons pleinement reconnaissants avec ceux qui se réjouissent. Mais faisons de cette priorité spirituelle et du royaume notre priorité. Jésus, il est ambitieux. Vivons cette priorité et communiquons-la à nos jeunes. Et faisons de leur réussite spirituelle notre joie en tant que responsable dans un travail jeunesse, par exemple, ou en tant que parent. Une question que j'ai empruntée à Fadi, qui travaille ici à l'IBG, qui m'a posée et que je lui ai retournée un jour. Toujours faire ça. Fadi, qu'est-ce qui te réjouit le plus en ce moment dans ton ministère? Et Fadi de répondre, les progrès spirituels des étudiants ici à l'Institut, mois après mois. Je termine avec une citation de Carson. Facile. Dans un monde où beaucoup de chrétiens puisent leur plus grande joie dans l'avancement, les facilités, les promotions, la sécurité financière, la bonne santé, la popularité et quantité d'autres choses semblables, quel bonheur d'entendre un apôtre confesser que rien ne le réjouit davantage que d'entendre que ses enfants marchent conformément à l'évangile. Tout cela nous révèle le cœur de l'apôtre, mais en même temps, ça nous interpelle sur ce qui nous procure notre plus grande joie. Dans le ministère jeunesse, que l'évangile soit notre plus grande joie, plus encore que le travail jeunesse lui-même. Et écoutez bien ça, plus encore même que les progrès spirituels des jeunes. Que l'évangile soit notre plus grande joie. L'évangile, le cœur. Pour le travail jeunesse, l'évangile. What else? Pascal, à toi.
Merci. Merci. Pour la suite, j'ai choisi de prendre un texte dans Tite. Alors si Tite peut être vu comme un manuel pour le ministère, j'ai choisi deux, trois versets spécifiques qui parle de la jeunesse. Ils sont dans Tite chapitre 2, mais moi on ne m'entend pas. Je suis trop grand? Non. Je parle trop loin? Pas assez fort? Trop loin. Ok. Tite chapitre 2, les versets 6 à 8. En fait, c'est un texte qui m'a surpris, et c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que quand on parle d'ambition spirituelle, moi, j'ai l'impression que la chose que j'aimerais le plus retransmettre, c'est une passion. Et donc, forcément, je me dis, mais il faut que je sois zélé, et puis il faut que je transmette cette passion aux jeunes qui sont là à côté. Il faut qu'ils brûlent pour Dieu. Et puis, en lisant le texte, j'étais surpris par rapport à l'engagement chrétien que Paul encourage. Tite, chapitre 2, les versets 6 à 8. « Exhorte de même les jeunes gens à être sensés, à tous égards, en te montrant toi-même un modèle d'œuvre bonne et en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, inattaquable, afin que l'adversaire soit confus et n'ait aucun mal à dire de nous. » À être sensé. Surprenant. Je ne sais pas, à la place de Paul, si je devrais encourager Tite par rapport à la jeunesse. Il me semble que quand il parle des jeunes gens, c'est autant les jeunes hommes que les jeunes femmes. Ben, j'aurais peut-être choisi autre chose. Je me serais peut-être dit, ben, écoute, par rapport aux jeunes, si ton objectif, comme on le voit dans la suite hein, de Tite, c'est vraiment que tu puisses transmettre le zèle, la passion pour Christ, pour qu'ils soient zélés pour des œuvres bonnes, moi, ce que je te conseille par rapport à la jeunesse, c'est de les mettre en avant. Parce qu'ils ont l'enthousiasme. Alors tu mises sur les jeunes, tu fais en sorte que personne puisse les faire taire dans l'assemblée, même si c'est un projet un peu fou, t'explique aux aînés, essayez de les suivre, vous allez voir où ils vont nous emmener, et puis reprenez-les avec douceur, et puis parmi la jeunesse, bah, tu trouves 3-4 leaders, tu mises sur eux, tu les accompagnes, tu prends beaucoup plus de temps avec eux, et puis tu vas voir, ils vont former les autres, c'est inévitable. Mise sur les bons, les autres vont suivre, toute l'église va suivre, ça va être merveilleux pour la gloire de Dieu. Amen. Et puis, peut-être qu'en fonction du dada du moment, j'aurais conseillé autre chose, et peut-être vous avez tous d'autres conseils à donner à Tite. Mais je ne sais pas si le premier conseil auquel vous auriez pensé, c'est qu'il soit zélé à tous égards. Zélé. Merci. Sensé à tous égards. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur le sujet de l'engagement chrétien que nous voulons encourager. Je trouve que Sam l'a déjà bien fait dans son deuxième point, mais j'aimerais simplement rester sur ça, sensé à tous égards. Dans les différentes versions, on va voir que sensé peut être traduit par modéré, pondéré, raisonnable, prudent, sobre, sage, réfléchi, équilibré, discipliné, les jeunes quoi, hein ? Ouais. Alors certes, il n'encourage pas seulement Tite à appuyer sur le côté sensé pour la jeunesse. C'est un conseil qu'il donne pour plusieurs. Mais ça me surprend particulièrement pour la jeunesse. En plus, sensé à tous égards. Pas juste dans un domaine, là encore le défi. Dans un domaine, on veut bien relever le défi. Mais à tous égards, la jeunesse sensée. C'est quoi être sensé comme ça, à tous égards, pour les jeunes ? Ben, déjà, j'aimerais préciser quand même que ça ne veut pas dire être mou. Hein ? Parce qu'on peut quand même être zélé, hein ? Et ça ne veut pas dire être mou. Enfin, offrir toute sa vie, c'est un culte raisonnable. Hein ? C'est quelque chose de réfléchi et c'est très bien. Voilà, donc ça ne veut pas dire ça. Mais être sensé, ça veut peut-être dire ne pas s'engager à fond d'un côté, puis à fond de l'autre, puis arrêter, puis changer complètement. Un peu la jeunesse des fois. Hein ? J'ai entendu un message sur la prière. Maintenant, je suis au taquet, je ne fais plus que ça. Tout de même, ça sert à quoi témoigner ? C'est Dieu qui change les cœurs. Moi, je prie. Hein ? Et puis, 2 mois après, il y a un séminaire sur le témoignage. Mais j'ai enfin compris que si on ne parle pas, ils ne peuvent pas écouter. Maintenant, je vais parler, je vais crier, hein, etc. C'est un peu la jeunesse, parfois. Parfois, je me sens un peu jeune, d'ailleurs. Mais c'est peut-être ça, être sensé. Parce qu'il y a une tendance naturelle, chez nous, chez les jeunes aussi, à s'engager pleinement dans des activités, parce qu'on est super zélé par les activités, on voit un côté hyper excitant. Et puis à côté de ça, une fois qu'on est complètement lessivé et que l'activité est terminée, à être loin de Dieu, complètement off. Et la jeunesse en particulier, elle peut être à fond pour un week-end, une activité de fou, ça fait 2 mois qu'on prépare, la vidéo est incroyable, une fois qu'on est là c'est juste merveilleux, et puis le rangement jusque 3h du mat, et puis à 4h plongé dans la porno, terminé, un jour off, achat compulsif, complètement à côté de la plaque, parce que c'est peut-être la jeunesse aussi, pas sensé, pas réfléchi, pas équilibré en fait. Et du coup, des engagements à fond. Et puis derrière, un grand vide. Et en fonction de ce que nous encourageons, nous pouvons peut-être encourager les jeunes à être sensés, ou nous pouvons simplement transmettre un zèle pour des activités qui va en fait pas vraiment les aider. Parce que derrière, il y aura des grands off. Moi, je remarque que le plus facile pour moi, ce serait bien sûr de transmettre un zèle pour des activités. Je suis un passionné, pour ceux qui me connaissent. Et si, je ne sais pas, vous voulez que je vous passionne d'aquariophilie ou de quelque chose d'autre, je ne sais pas, je peux le faire, vraiment. Ça, il me suffit de peu de temps, je m'intéresse à quelque chose et j'aime transmettre cette passion. Mais la passion pour Christ, pour l'Évangile, ce n'est pas si simple que ça. Alors parfois, ça semble plus simple de transmettre la passion pour une activité. Et puis, il y a des gens qui suivent et tout le monde achète des Logan et c'est super. Et parce que c'est génial une Logan et c'est ma petite passion du moment. Mais est-ce que je transmets la passion de l'Évangile ? Être sensé à tous égards pour la jeunesse. Alors pourquoi être sensé ? Pourquoi ce conseil pour la jeunesse ? Je ne sais pas trop. Moi, j'ai l'impression que c'est un conseil, oui, parce que ce n'est pas vraiment la jeunesse. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a une grande tension entre la passion pour l'Évangile et la passion pour les activités chez la jeunesse, entre le faire et l'être. Cette tension est énorme. Alors peut-être qu'il faut particulièrement les encourager à ça. Et peut-être qu'ils ont tendance à être faux, être animé par de mauvaises motivations. Mais comme je l'ai dit, je me sens bien jeune. C'est à ce niveau-là. L'année dernière, le life motif au feu, c'était « moins mais mieux ». Parce qu'on court tellement, on fonce tellement dans les activités que j'ai l'impression qu'il arrive un moment où on ne sait plus ce qu'on veut retransmettre et comment on le retransmet vraiment. Et puis on regarde juste que « ah, ils ne savent pas prier, zut, on n'a pas pensé à ça ». Alors, « moins mais mieux ». J'ai l'impression d'être un peu comme ça aussi. Et comme tous, je crois, les jeunes doivent réagir face à l'envahissement de l'activisme dans leur vie. Mais comment les aider ? Comment les aider à être sensés à tous égards ? Qu'est-ce qu'on met en place ? Qu'est-ce qu'on met en place pour que leur vie chrétienne puisse être cohérente, équilibrée ? Pour que ce soit la grâce de Dieu qui leur enseigne la piété et que ce soit dans cet attachement à Dieu qu'ils trouvent la joie d'être zélés pour les œuvres bonnes et qu'ils puissent porter du fruit. Comment est-ce qu'on peut les encourager à ça, de manière équilibrée, sans arrêt les stimuler dans une direction, dans l'autre, de manière à ce qu'ils se perdent ? Ben, il me semble que dans ce texte, dans Tite, on a des réponses par rapport à ça. Les réponses se trouvent dans le deuxième point que j'ai appelé « Quel enseignement dispensons-nous aux jeunes ?» Dans Tite, chapitre 2, les versets 6 à 8, on voit « Exhorte de même les jeunes gens à être sensé à tous égards, en te montrant toi-même un modèle d'œuvre bonne et en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, inattaquable, afin que l'adversaire soit confus et n'ait aucun mal à dire de nous. » Quel enseignement dispensons-nous aux jeunes ? Dans l'espoir de les voir, bien sûr, être sensé à tous égards. Je vais avoir trois points, avec deux sous-points chacun. Premier point, soyons des modèles visibles. Deuxième point, veillons au contenu de notre message. Troisième point, veillons à parler au plus grand nombre. Premier point, soyons des modèles visibles. On voit cet encouragement dans ces versets. Paul encourage Tite à être un modèle d'œuvre bonne. Pour la jeunesse, particulièrement, il me semble que c'est très important. Les jeunes, c'est vrai, sont sujets à être incohérents. Mais en même temps, ils sont vraiment attirés par la cohérence. Et moi, je remarque que dans ma propre vie, j'ai beaucoup appris de personnes cohérentes dans leur vie chrétienne, tant dans l'Église que dans ma famille. C'est lorsque j'ai vu des personnes cohérentes que j'ai voulu savoir, mais qu'est-ce qui les anime ? Qu'est-ce qui fait que leur vie est cohérente ? Moi, j'aimerais connaître le Dieu qu'ils connaissent, qui a changé toute leur vie de manière à ce qu'elle soit cohérente. Elle donne envie d'être vécue, cette vie-là. Quand j'étais adolescent, l'église où j'étais, les anciens ont décidé de construire de nouveaux bâtiments pour l'église. C'était fantastique pour moi, j'aime bien bosser. 2 heures par soir, je bossais avec l'un ou l'autre des frères de l'église. Et puis, j'ai pu découvrir les anciens, les responsables, d'une manière différente. J'ai pu voir que, quand ils sont en situation d'échec, ils ne réagissent pas tous de la même manière. Et puis que... Quand il s'agit de décider si on va faire le plancher en bois ou en ourdi et qu'ils ne sont pas d'accord, c'est rigolo ce qui se passe. C'est vraiment c'est intéressant. Et puis, voilà, les voir vivre. J'ai pu les voir se tromper, j'ai pu les voir se repentir, j'ai pu les voir se demander pardon, j'ai pu les voir se réconcilier. Eh bien, figurez-vous que mon intérêt pour les messages était tout différent. Parce que quand quelqu'un prêchait sur le pardon, et que je l'avais vu dans la semaine se prendre la tête avec un autre de l'église, et que j'avais vu combien de temps il avait mis juste à ce qu'il essaye de rattraper la situation, je me disais, waouh, je suis sûr que ça va être super intéressant. Parce qu'avec ce qu'il a vécu cette semaine, il a dû fouiller la Bible juste à ce qu'il trouve ce qu'il doit faire avec ce frère. Et j'écoutais d'une manière passionnée ce qu'il allait dire. Pareil pour ceux de ma famille, que je considère comme des exemples de vie cohérente. J'avais ce désir de savoir où est le secret. Eh bien, la question que je vois du coup pour nous, c'est, bah, sommes-nous des modèles d'œuvres bonnes? Ça, c'est à chacun de nous placer devant Dieu. Hein. Des modèles d'œuvres bonnes, pas simplement des personnes intouchables, qu'on regarde de loin et qu'on dit, waouh, lui, oh, lui, il est vraiment super. En fait, il est sans péché, hein, tellement il est super, il est vraiment, waouh, je ne serai jamais comme ça. Non, des modèles d'œuvres bonnes qui sont accessibles. Le gars avec qui tu bosses de l'église, le gars qui est comme toi, qui rend en fait l'évangile du Christ accessible. C'est simplement quelqu'un qui se repent, qui aime Dieu. Et du coup, on retransmet un petit homme et un grand Dieu. Mais pour ça, il nous faut peut-être veiller à être des modèles de vie visibles. Et je vais souligner le visible en nous montrant des modèles d'œuvres bonnes. Pourquoi visible? Ben tout simplement que si les jeunes aujourd'hui ne peuvent pas voir leurs aînés vivre, c'est fort probable qu'il y a quelque chose qui va manquer. Et qu'il y a quelque chose dans l'enseignement qui ne va pas passer. Moi, je suis attristé de voir combien de jeunes dans les églises ne connaissent pas les anciens de l'église. Ça me semble du coup pas surprenant qu'un jour ils disent « Mais en fait, pourquoi on va au culte? Sur Internet, il y a des super prédications. » C'est vrai, après tout. Quelle est la différence entre écouter une prédication de quelqu'un que je connais pas le dimanche et quelqu'un que je connais pas le dimanche? Non, non. Bon. C'est vrai qu'il n'y a pas... Bon. Alors, bien sûr, il y a plein de différences. Hein. On est d'accord. Mais moi, j'aimerais bien qu'il puisse vivre ce que j'ai vécu. Parce que je connaissais la personne. J'écoutais le message complètement différemment. Dans notre société individualiste, à mon avis, on doit réfléchir aux cadres qui permettent de vivre que les aînés puissent montrer comment ils vivent aux plus jeunes. Pas l'exemple parfait, non, l'exemple repentant. Et que les plus jeunes puissent apprendre de cela, qu'ils puissent avoir la joie de pouvoir cheminer aux côtés des aînés et les voir, et du coup écouter l'enseignement d'une manière toute différente. Parce qu'ils les connaissent et parce qu'ils sont beaucoup plus intéressés par ce qu'ils ont à dire. Il y a peut-être des cultures dans lesquelles il n'y a pas besoin de réfléchir à un défi spécial pour vivre de manière visible. Mais je pense vraiment que dans notre culture individualiste, il faut y réfléchir. Alors si on n'arrive pas à créer des cadres pour vivre l'évangile ensemble, essayons au moins de créer des cadres où on peut partager ce qu'on vit ensemble, où les aînés peuvent au moins partager leurs luttes, leurs difficultés, comment ils reviennent à Christ, comment ils se repentent. Ce serait, à mon avis, un minimum, sans devenir bien sûr passionné par le cadre, mais parce qu'on veut y vivre. Je résume souvent la vie d'un disciple de Christ en disant « Être disciple, c'est renoncer à soi-même et aimer Christ plus que tout. » Et j'aime résumer la formation de disciple en disant « Former des disciples, c'est être un disciple et le vivre de manière visible. » Renoncer à soi, aimer Christ plus que tout, et puis le vivre de manière visible avec les jeunes, en ayant bien sûr ensuite le défi de transmettre la connaissance de Dieu. Et ce sera mon deuxième point. Donc premièrement, soyons des modèles de vie visibles. Deuxièmement, veillons au contenu de notre message. Dans ce texte, il est dit que notre enseignement doit être pur, digne. Alors c'est vrai que si vous regardez le texte en détail, en fonction des versions, on ne sait pas trop ce qui se rapporte à la vie de Tite et ce qui se rapporte à l'enseignement. Alors je vais faire simple, il me semble qu'au minimum, on peut dire ça. L'enseignement pur et digne. On pourrait peut-être dire plus, mais au minimum, on peut dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire, un enseignant pur et digne? Pur, certainement fidèle, incorruptible. Digne, certainement intègre. Donc d'un côté, ne rien ajouter à la parole, pour que celle-ci ne soit pas polluée. D'un autre côté, ne rien enlever, pour que celle-ci ne soit pas altérée. On pourrait certainement développer, je dirais simplement, voir Galates. Je passe donc au prochain point. Veillons au contenu du message. Pur et digne. Et puis, deuxième sous-point, parlons de tout. Il me semble que pour que la jeunesse puisse être sensée à tous égards, il faut qu'on parle de tous égards. Enfin, il faut qu'on parle de tous les domaines. Sinon, ils ne seront pas sensés à tous égards. Personnellement, au feu, j'avais l'habitude de choisir un livre qu'on va étudier sur toute l'année avec les étudiants, parce que quelque part, ça me rassure. C'est un peu comme ça que j'ai été formé. Et puis, au moins, je me dis, ben, après, il suffit de coller au texte et c'est pur, digne, impeccable. Enfin, il suffit de... Bon. Messieurs, à tous égards, me remet en question. Parce qu'effectivement, il y a des problèmes qui sont spécifiques à la jeunesse. Parce qu'effectivement, il y a des défis à leur lancer qui sont spécifiques aussi pour eux. Et ça m'en parlait tout à l'heure. J'en ai déjà parlé aussi, je crois. Mais c'est inévitable aujourd'hui, à mon avis, quand on travaille avec la jeunesse, de parler de la porno, de parler des jeux en ligne, de parler des séries, de parler de la clash attitude, hein, l'usage de la langue, on va dire. C'est inévitable aussi de parler des bases de la vie chrétienne. La piété, la joie de la discipline, la repentance. Parler du mariage, certaines valeurs éthiques. Il me semble qu'à l'heure où la théologie biblique fait son retour avec force au cœur de la prédication, et je m'en réjouis, peut-être que c'est le moment de réfléchir aussi au retour de la théologie systématique, peut-être spécifique à la jeunesse. Est-ce que nous connaissons les sujets qui sont spécifiques à la jeunesse et que nous devrions traiter ? Absolument ! Parce que c'est la jeunesse, et on veut qu'ils soient sensés à tous égards. Et ils ne vont pas rester là pendant 15 ans. Si dans l'église, on fait toute la Bible en 15 ans, bon, la plupart sont là. Les jeunes qui sont là pour 6 mois ou un an, il y a des sujets spécifiques à traiter pour la jeunesse. Moi, ce que j'ai fait comme exercice, assez simple, je ne suis pas un théologien, j'ai pris quelques bouquins, entre 5 et 10, qui traitent du sujet de la jeunesse, j'ai regardé tous les chapitres, j'ai tout noté, la plupart des fois c'est la même chose. Puis je me suis dit, ben, au final, tout ce qui reste, ça c'est certainement des trucs à voir avec les jeunes. Parce que tout le monde en parle. Hein. Bon, on peut faire mieux. Hein. Soyons des modèles visibles, veillons au contenu de ce que nous retransmettons, et puis veillons à parler au plus grand nombre. À l'heure où le manque de concentration de la jeunesse fait que la plupart ne peuvent pas se concentrer plus de 10 minutes... À ce niveau-là, vous n'êtes pas jeune aujourd'hui. Il y a plusieurs manières de réagir. Ou vous imitez bien. Il y a plusieurs manières de réagir. Soit on peut être offusqué, soit on peut se dire, mais moi je suis appelé à prêcher et je persévérerai dans mon ministère quoi qu'il arrive. Et peu importe s'il dorme, je suis prédicateur. Soit on peut se dire, bon, on peut chercher à enseigner de différentes manières, ça m'en a parlé tout à l'heure. Personnellement, je vis un peu les trois. Je suis offusqué qu'il ne se concentre que 10 minutes. J'ai envie de continuer à prêcher. Et puis, je cherche à enseigner de différentes manières. Je ne sais pas pour vous. En tout cas, il me semble que c'est bon de souligner, de ressouligner ce que Sam a dit par rapport à la manière d'enseigner. Pour moi, je remarque que quand je lis la Bible, chaque fois que je vois le mot « enseignement », comme dans ce texte, je pense directement à la prédication. Ou si ce n'est pas la prédication, au moins quelqu'un devant sur l'estrade avec des personnes qui écoutent. Pourtant, il y a bien d'autres manières d'enseigner. Mais on a besoin d'une révolution quelque part dans notre tête. Pour l'expliquer, je vais faire deux petits parallèles. Quand j'étais enfant, j'étais persuadé que je n'étais pas un évangéliste. Ça n'a pas forcément changé. Mais, par contre, j'avais le cœur qui brûlait pour les perdus. Et je m'endormais très souvent le soir en pleurant pour mes amis qui partaient en enfer. Et ça m'arrive encore. Mais pour moi, un évangéliste, c'était quelqu'un qui était au milieu d'une place et qui haranguait la foule en leur parlant de l'enfer. Et vous devez vous repentir, etc. etc. Et c'était pas moi. Et j'étais un peu timide, un peu, je me voyais pas faire ça. Et donc je me disais, ben non, c'est pas pour moi, je ne suis pas évangéliste. Puis un beau jour, j'ai lu le bouquin que certains connaissent, hein, « Comment devenir un chrétien contagieux », qui parle de tous les styles d'évangélistes. Et puis j'ai vu l'interpersonnel, j'ai dit, mais c'est moi. Je peux inviter mes amis, vivre un bon temps ensemble, et puis je peux parler de l'évangile, et ils écoutent en plus. C'est incroyable, mais en fait, je ne savais pas. Et puis le fait de voir qu'il y a plein de styles différents, non seulement ça m'a donné la joie de pouvoir témoigner, mais en plus ça m'a donné la joie d'arrêter de juger ceux qui font différemment, et de me dire, mais eux aussi, ils font partie de la même famille, ils ont le même objectif, et c'est super qu'on est différents. Quelques années plus tard, la même chose pour l'adoration. Je lis le bouquin Crazy Love, premier chapitre ou deuxième, je ne sais plus, on nous encourage à regarder une vidéo sur Internet. On voit, vous savez, la Terre qui est toute grande, après toute petite, après on voit l'immensité de l'univers et ça nous pousse à l'adoration. Et moi, je regarde. Et je me dis, mais t'es vraiment un ingrat. Je ressens rien. Quelque part, j'en ai honte, hein, honnêtement. Mais franchement, je ressens rien. Je dis, mais flûte, Seigneur, aide-moi à t'adorer. Je suis là, je regarde. Vraiment. Et puis alors, vraiment repris. Je me dis, il faut absolument que je lise des livres sur l'adoration. Alors, je cherche des livres, j'en trouve un. Gary Thomas qui parle des différents styles d'adorateurs. Je me dis, bah, tiens, les styles, ça m'intéresse. Hop, on y va. Alors, sans vouloir mettre les gens dans des boîtes, hein, mais il parlait de plein de styles d'adorateurs. Et puis, je me suis retrouvé. Et puis, j'ai découvert quelque chose. Et puis, j'ai commencé à adorer Dieu. Quelque chose qui me collait. Quel bonheur de pouvoir être un adorateur du Père. Quel bonheur de pouvoir ne plus juger les autres qui font autre chose. Hein, et plus jouer quelque chose aussi. Fermer la porte, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, hein, regarder qu'il n'y a personne, allumer une bougie, puis se dire « j'espère qu'il va se passer un truc et... ». Non mais des fois on est réduit à ça. Je me dis « certainement il va se passer quelque chose, mais moi je veux adorer Dieu, je ne sais pas faire hein ». Alors peut-être vous n'êtes pas ridicule comme moi, moi je rêve de lire un jour un livre sur l'enseignement, qui parle des différentes manières d'enseigner. Goetz dit que dans le grec, enseigner parfois, en fait dans le grec, on pourrait traduire par parler, évangéliser, enseigner, proclamer, annoncer, témoigner, raisonner. Il y a certainement différentes manières de le faire. Quels sont les dangers de chacun? Quels sont les avantages? Quand est-ce qu'il vaut mieux utiliser quel style? Moi j'aimerais bien un bouquin là-dessus, qui me permet non seulement d'enseigner comme Dieu m'a créé, je ne suis pas un enseignant, mais je peux participer au défi qui nous est offert à tous d'édifier le corps de Christ. Comment est-ce que moi je pourrais participer? Comment je pourrais arrêter de juger ceux qui sont différents? Il me semble que c'est beaucoup plus simple quand je comprends qu'il y a plein de manières de faire et qu'on peut essayer de travailler ensemble à la complémentarité les uns avec les autres. Je ne vais pas donner d'exemple parce que Sam en a déjà beaucoup parlé, mais je vais simplement en donner un parce que j'ouvre un petit peu plus loin par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure, puisqu'il il a développé tout à l'heure tout ce qui était plutôt l'enseignement académique. Et je me permets du coup de continuer dans la même idée, mais en parlant du vivre ensemble, qui est aussi une manière d'enseigner. De la relation. C'est mon deuxième sous-point dans Veillons à parler au plus grand nombre, en privilégiant les relations. Si on souhaite parler au plus grand nombre, pour qu'il soit sensé à tous égards, il me semble qu'il est bon de veiller à ce que notre enseignement vienne toucher le cœur de chacun. Personnellement, dans ma manière d'enseigner, ce que j'aime vraiment faire, c'est créer des cadres de vie. On part et on va servir ensemble pendant une semaine. Ça, c'est un cadre merveilleux. Et puis, avec les responsables, on réfléchit à ce qu'on aimerait transmettre. Je parlais de la prière au début. Par exemple, la prière, on pourrait essayer de retransmettre quelque chose par rapport à la prière. On va créer des situations pour que les jeunes posent des questions par rapport à la prière. On va y répondre avec la parole parce qu'on se sera préparé. On va essayer de l'appliquer pendant la semaine, de le vivre ensemble, d'une manière sensée, équilibrée, pas qu'on fasse que ça, sensée, équilibrée, qu'ils puissent vivre ensuite au quotidien ce qu'ils auront retenu de cette semaine. J'aime beaucoup créer ces cadres. Vous savez, c'est un peu les 12 pierres qui sont là et les enfants demandent « mais c'est quoi ces 12 pierres ?» Et puis les parents pourront alors enseigner. Essayez de créer des cadres où on peut poser des choses que les jeunes puissent demander et puis vivre ensemble ce qu'on voit dans ces cadres. Avec mon épouse, on ne pense pas être des enseignants, mais on aime bien transmettre par la vie. Alors, depuis presque toujours, depuis qu'on est ensemble, depuis 13 ans qu'on est mariés, on vit en colocation. Pourquoi ? Déjà pour notre édification personnelle, c'est pas mal, franchement, ça aide. Et puis, aussi parce qu'on pense pouvoir retransmettre quelque chose de cette manière. Parce que vivre en colocation, bah, ça permet, nous, de nous poser des questions de ce qu'on aimerait retransmettre, en priant pour que Dieu nous guide sur ce qui est le plus important. Et puis ensuite, ça nous permet de créer des situations qui font que la personne va poser des questions. Ça nous permet de donner les textes bibliques. ça nous permet de renvoyer la personne à ses textes bibliques pour voir comment est-ce qu'elle pourrait, elle, les appliquer. Et puis ça nous permet de l'encourager en essayant de vivre l'application avec elle, l'application qu'elle a choisie. Bref, veillons à parler au plus grand nombre en privilégiant aussi les relations. Reste maintenant à voir comment enseigner de toutes les manières possibles sans les opposer. Et ça, c'est pas évident. Dans les différentes manières d'enseigner, il y a des types d'enseignements qui se concentrent plus sur le contenu de ce qu'on veut faire passer. D'autres qui se concentrent plus sur l'apprenant. Il existe un petit schéma d'enseignement qui vaut ce qu'il vaut, qui présente les styles d'enseignement. J'ai rien trouvé de plus propre, désolé. En tout cas, ce schéma de Terer Vilmar, que je ne connais pas, sur l'enseignement, je le trouve intéressant parce qu'il y a un axe centré sur la matière, un axe centré sur l'apprenant. Et souvent, les enseignements, les docteurs, sont très forts pour être centrés sur la matière. Mais, quand on est juste centré sur la matière, pour que l'enseignement soit pur et digne, et c'est important, on vient de le dire, ça ne veut pas dire que c'est simple pour les jeunes de réussir à le mettre en pratique là où ils sont dans leur vie. Il me semble que l'idéal, si on a des styles différents, c'est qu'un responsable jeunesse, par exemple, un gars un peu comme moi, puisse être attentif à l'apprenant, se soucier de ce qu'il vit, ses défis, ses luttes, puisse aller voir les anciens d'église et dire « moi j'ai remarqué que, il me semble que les anciens d'église puissent décider d'un enseignement qu'on pourra apporter. Quelque chose de solide, pur, digne. Et puis qu'ensuite, ben, je puisse poser des questions aux jeunes par rapport à l'enseignement qu'ils ont eu. Vous avez reçu cet enseignement dimanche. Comment est-ce que vous comptez le mettre en pratique ? Moi, ça m'intéresse. Comment est-ce que tu veux le mettre en pratique ? Ben, on commence à se poser des questions là, à l'associatif et puis on transmet un vrai message, un vrai contenu. Et puis ensuite, ben, on est dans l'incitatif. Il y a eu un vrai contenu. On a vu là où le jeune a peut-être des soucis, là où il a peut-être du mal à appliquer ça. Et puis on peut essayer ensemble de le mettre en pratique. Ça se vit dans la relation en fait. Hein, tout simplement, il n'y a pas besoin de schéma en vrai. C'est juste pour nous aider un petit peu à comprendre ce que j'essaye d'expliquer. Ça se vit simplement dans la relation, dans des allers-retours avec le jeune, mais aussi avec les responsables d'église. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes dons. Et du coup, c'est super qu'il y en a qui peuvent enseigner, et c'est super qu'il y en a qui peuvent veiller à ce que l'enseignement passe par rapport à la jeunesse, et qu'on comprend ce qui a été dit dimanche, et qu'on essaye de l'appliquer ensemble. On pourra jouir de l'équipe, et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Je conclue en reprenant un exemple. J'ai introduit en parlant de la prière. Je termine avec la prière. Je suis face à ce constat. Apparemment, il y a un problème avec la prière. C'est peut-être pas le cas de votre groupe, hein, mais apparemment, il y a un problème avec la prière. Qu'est-ce que je fais ? Bah déjà, je veux qu'il soit sensé à tous égards. Donc, si je vois que ça, c'est pas sensé, c'est bien que j'en prenne conscience. Et j'aimerais retransmettre quelque chose pour qu'il soit sensé à tous égards. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Bah, je vais me poser des questions sur ma propre vie. Est-ce que je suis un modèle ? Est-ce que je suis un modèle visible ? Est-ce qu'il me voit prier ? Est-ce qu'il voit ma passion pour le Christ ? S'ils ne savent pas prier plus de 2 minutes, parce qu'après ils sont à sec au niveau du vocabulaire, est-ce que c'est parce que j'ai jamais prié plus de 2 minutes ? Parce que moi-même je suis à sec au niveau du vocabulaire ? C'est la première question que je me pose. Et puis ensuite, ben, quel enseignement est-ce qu'on devrait donner ? Un enseignement pur et digne ? Parce qu'il faut qu'on puisse parler de tout le contenu. Donc on constate quelque chose. Quand on en prend conscience, il faut l'enseigner, il faut ouvrir la Bible. Et puis enfin, comment est-ce qu'on va l'enseigner ? Il y a des choses qui s'enseignent très bien du haut de la chair et il n'y a presque pas besoin d'autre chose. Je veux dire presque pas besoin. Il y a des choses qui s'enseignent très bien par la vie. Si vous interrogez Ian Newberry sur la prière, je pense qu'il fait référence sur le sujet. Si vous l'interrogez sur la prière, il dira en fait, pour qu'un jeune soit motivé par la prière, il faut qu'il se joigne à un groupe de 12 autres personnes qui sont déjà motivées par la prière. Et honnêtement, j'ai l'impression que c'est vrai. Honnêtement. Parce que les séminaires sur la prière, j'en ai déjà fait. Mais quand ça démarre, c'est quand je me mets à prier avec d'autres personnes. Alors il y a peut-être des domaines où, où c'est vraiment nécessaire de vivre quelque chose de stimulant ensemble. Donc par rapport à la prière, ben ensuite reste à voir comment est-ce qu'on fait pour le mettre en pratique, pour que ce soit stimulant. Et peut-être c'est en vivant quelque chose ensemble, dans la relation. Et pas que ça. Parce qu'il faut que les jeunes puissent être sensés, équilibrés dans tous les domaines. Voilà, j'espère que c'était à peu près clair. Je résume simplement mes trois points. Je redis mes trois points avant de donner la parole à Sam. Soyons des modèles visibles, veillons au contenu du message, veillons à parler au plus grand nombre. Merci Seigneur pour ta grâce sans laquelle on ne serait pas là aujourd'hui. Merci pour ton salut, merci pour la joie de te connaître, merci pour le zèle que tu mets dans nos cœurs, merci pour ce cœur qui brûle pour ceux qui ne te connaissent pas. Merci pour ce cœur qui brûle aussi pour les jeunes. On aimerait tellement leur montrer qui tu es, mais nous-mêmes on a du mal à te voir. Seigneur, éclaire-nous, révèle-toi à nous, permets qu'on puisse te montrer comme tu es, de manière à ce qu'ils te chérissent de plus en plus. Et merci parce qu'un jour on sera avec toi. Amen.
Merci les gars. Bonne soirée à chacun.